c'était Boustrap, nom de guerre donné à Guingouin par les parachutistes du 3e SAS, qui avait depuis longtemps réuni les arguments d'une solution, au moment où, à la résistance militaire qui soufflait de Londres, s'opposait celle de la lutte des classes, la théorie quantique. À quoi rêve à ce moment-là, à 977 mètres d'altitude, le mont Bessou et le puits pendu sur le plateau aux mille sources. La guerre finira. Il n'y aura plus d'homme à donner une vraisemblance au maquis. La résistance ne sera plus qu'une danseuse en tournée pour ceux qui ont combattu pour elle et pour ceux qui l'ont combattue. Elle tombera dans l'exotisme que l'on cite ou que l'on médaille. C'est ce à quoi pense Don Qui, traversant la forêt de la Berbérole avec ses journaux annonçant la mort du préfet du Maquis. Il y eut des exceptions, comme dans un texte philosophique de Heisenberg sur la nature, où le langage tente de sauvegarder l'œuvre de Dieu, empirer dans l'inintelligence des hommes. Les mots, une fois de plus, s'aventurent dans le langage des couleurs. Arbre de vie archétypiel, le Matizar devient, dans les quatre rivières, pour l'histoire des arts, le cyclope, Rébérole, lapin avec des herbes volubiles et leurs fleurs à cinq pétales soudés, il en a fait le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, où celui qui en atteint le centre atteint son propre noyau. Chaque couleur dans le tableau du cyclope est une version de Guingouin, et ses noms de résistance y deviennent arc-en-ciel d'un langage quantique. Le tableau se trouve aujourd'hui au musée des Moutiers, où Guingouin commence sa clandestinité à bicyclette en distribuant des tracts. Son refus de l'histoire était alors dit Raoul. Devons-nous faire des cinq noms de résistance de Georges Guingouin, les cinq fenêtres de l'éternité par les astres? Tout commence dans la cour de la gare des Moutiers, avec les débris de la botteleuse du ravitaillement général. Les paysans doivent y déposer leur foin et leurs herbes, que les pierrots lunaires de Vichy expédient aux bêta-cornes germaniques. Raoul, fille de la destruction des botteleuses dans toutes les villes limousines où elles étaient entreposées, l'acte premier de la résistance dite des forêts à l'époque. À Darius, des Assis, revint la destruction de la botteleuse de Meymac. Il la détruisit, mais fut arrêté au moment même où il la détruisait. Don Qui avait lié connaissance avec Darius dans la prison de Tulle. Il devait d'ailleurs y mourir avant son départ pour un cassette de maladie que seuls les juges d'instruction de l'époque savaient inventer. Son grand exploit à Tulle fut la fraternisation des détenus AS plus FTP. Aussi, pour les gardiens, à chaque tentative de rébellion, la présence de Darius allait de soi. Et comme s'il s'était agi d'un rite cathare, à chaque tentative de soulèvement en prison, Darius se retrouvait au mitard. Dans les souvenirs de Don Qui, le mitard, certains jours, cessait tout rapport avec la carcéralité pour devenir monastère taoïste, même sans moi. Il fallait, pour maintenir le moral haut, rendre la prison créative. Les maquisards enfermés s'engageaient dans de subtiles discussions avec les arbres qui entouraient la prison de Tulle. Don Qui se souvient de Darius parlant aux chênes qui se trouvaient dans l'axe de leurs fenêtres. Le printemps 42 s'annonçait froid, démuni de toute sympathie. Mais dans les mitards fleurissaient les dialogues comme une résistance contre les organismes destructeurs de l'espace et du temps. Donc qui ou quelle est cette mystérieuse forme du dire qui transforme ton incarcération en liberté et la mienne en rapport de mots apolitiques qui ont cessé tout combat? Darius, peut-être la fraternité fait-elle défaut à ta demande? Donc, ce que tu racontes à ces arbres qui regardent nos fenêtres, serait-ce une façon de t'évader? Darius, sais-tu de quoi je parle? Donc, d'après ce que j'entends, ce serait Gramsci, Darius. Mais avec qui je parle de Gramsci? Donc, avec la fenêtre, ou ce qui est derrière la fenêtre, Darius, tu as trouvé. Je parle au chêne, c'est le nom de résistance de Raoul Guingois. D'ailleurs, tu le connais, tu as déjà parlé avec lui dans la forêt de la Berbérolle. Donc, mais à ce moment-là, ne s'appelait-il pas Orage? Darius, c'était le nom que lui avaient donné les déserteurs russes de l'armée Vlassov, que nous avions fait prisonniers après la bataille du Mont Gargan. Pendant 3 mois, nous l'avons tous adopté dans la forêt de la Berbérolle, où son nom était le chêne. Donc, en effet, c'est devant un chêne que Pierre-Élie le Magnifique organisait nos rencontres avec lui. La phosphorescence en était déjà Antonio Gramsci. Darius, avec le pacte germano-soviétique, les rencontres avec Gramsci étaient alors nécessaires. Elles le sont encore aujourd'hui. Regarde, le chêne avec qui parler est encore là, dans l'encadrement d'une fenêtre de mitard. À ce moment-là, coup de tonnerre, de l'autre côté du mitard, la voix de Jeannot de Perlevade qui a fait le coup de feu sur le mont Gargan. Jeannot, vous entendez? C'est lui! Il est venu nous voir! Donc qui? Mais lui, c'est qui? L'orage! Jeannot, Darius, Georges Guingouin! Lui, nouveau coup de tonnerre, Jeannot, vous entendez? C'est lui, l'orage! Nous n'avons pas quitté le mont Gargan! Voix venue du couloir, entre deux portes de cellule. C'est le surveillant de garde du mitard. Gardien, vous vous trompez, vous êtes au mitard. Jeannot répond au gardien, Jeannot. Pour y gagner, une fois encore, la bataille du Mont Gargan. Gardien, pourquoi ne chantez-vous pas la Marseillaise? Donc il se rapproche de Darius qui sourit. Il lui dit dans un souffle, donc il. Tous ces noms de Guingouin qui se rencontrent au milieu des arbres de la prison, donnent une identité au présent, au printemps. Voix du gardien, gardien, j'attends la réponse. Silence agrandi par la pluie qui seul murmure. Raoul, l'orage, le chêne, le grand, Bousserap, pourquoi ne chante-t-il pas la Marseillaise? Chacun de ces noms de guerre, au moment de leur contact avec la feuille de papier blanc destinée au poème, doivent-ils devenir un tract avec encre et pinceau au milieu des moutons des bergeries limousines? Et l'histoire du manuscrit dévoré dans la bergerie de la Berbérolle, les arbres à la conquête du ciel, recommence-t-elle? Nous voici de nouveau devant les couleurs qui inventent le monde pour nous dire au moment où nous les nommons, avec les têtes transanimales des fonctionnaires de Vichy. La Marseillaise a perdu ses couleurs. Plus de bleu, plus de rouge. Le blanc est devenu un sacristanat d'églises effondrées, allumant des cierges qui essaient de croire à une cérémonie funèbre bien entretenue. Comment le rapatrier dans un étendard avec leurs arbres et leur verticalité combattante? Raoul, le chêne, le grand, l'orage, Bootstrap y ont déjà allumé par-dessus comme des étoiles. Blanqui, Jaurès, Nietzsche, Machno, Gramsci, même si elles éblouissent, elles indiquent la voie, comme le Tao. Le mont Vishnu et le puits pendu continuent à s'interroger, mais leur point d'interrogation est dans l'impossibilité de s'ajouter à une couleur. Même tricolore, les couleurs sont toutes devenues spectaculaires et marchandes. Les quatre rivières limousines ne parviennent pas à dire si elles coulent sur la terre ou à travers les jours du calendrier. Les rivalités fluviatiles, jaunes et bleues, contemporaines des moutons buvant l'encre noire, se sont figées dans l'histoire de la longue marche. Il fallait miser sur ce qui vient seul, lorsque ce qui vient seul a les mêmes couleurs qu'un chant de printemps. Son chant d'espérance recommencé, Raoul, le chêne, l'orage, Boustrape, le grand, à qui l'on s'adressait comme à une montagne taillée dans un mystérieux bout.